On va commencer par la prière ensemble. C'est bon? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour les psaumes, ce livre, ce recueil de prières, Seigneur. J'ai commencé avec une confession en partageant encore une fois combien je veux grandir, Seigneur, personnellement dans la prière. Et je voudrais, Seigneur, que la prière ne soit pas surtout pour moi des cris d'alarme ou des moments d'exaltation où il y a vraiment beaucoup de reconnaissance, mais plus que ça. Un réflexe, une seconde nature qui vient avec cette nouvelle nature que tu m'as donnée, qui m'amène à me tourner constamment vers mon Père, puis constamment parler avec toi de ce qui va, de ce qui va pas, de mes impressions, de mes joies, de mes peines. Que je puisse être constamment en train de me tourner vers toi, Seigneur. Et donc, je te demande de nous faire grandir de manière concrète et pratique à travers cette série. Viens nous enseigner, Seigneur, à prier davantage et à le faire comme tu nous l'enseignes dans ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter Julie avec le psaume 32.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de psaume 32, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. C'est un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, où on les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.
Merci, Julie. Alors, ce matin, on commence par la confession. On a décidé de commencer avec l'aspect le plus facile dans notre culture, la confession. Puis pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, vous savez, lorsqu'on aborde le texte, on se dit, comment c'est entendu dans notre époque, dans notre culture? Qu'est-ce que ça représente pour nous, la confession? Puis, pour être bien franc avec vous, la réflexion qui me venait, c'est que, particulièrement au Québec, c'est probablement plus vraiment existant. Je pense pas que c'est très présent dans notre culture de confesser. Puis j'étais en train comme d'essayer de passer en revue où est-ce qu'on voit ça, quand est-ce qu'on voit les gens pratiquer ça. Puis l'image qui me venait, c'était une commission d'enquête dans les médias. Puis je me disais, ouais, c'est ça, peut-être c'est ça. Hein? Il y a comme un juge, puis là des avocats, puis là ils essayent d'extirper une confession à peut-être un politicien qui veut pas vraiment reconnaître quelque chose. Ou l'image qui me venait, c'était en cours de justice lorsque on va avoir un criminel qui va plaider coupable, puis il reconnaît son tort. Mais là encore là, je me disais. Ça me semble pas vraiment ça l'idée biblique de la confession parce que en tout cas je sais pas si c'est une parodie des cours de justice, mais quand j'ai eu parfois à les témoigner, admettons, en cours, ça m'apparaissait quand même refléter plutôt le résultat d'une négociation. Tu sais, tu parles avec ton avocat puis finalement il dit, regarde, je pense que le meilleur move c'est ça, tu sais. Tu vas confesse coupable, reconnais que t'es coupable, puis c'est là qu'on va avoir comme la meilleure entente avec le juge, puis je pense que c'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats. Et donc, c'est pas encore vraiment le fruit comme d'une mauvaise conscience qui veut comme partager, exposer quelque chose. On a de temps en temps des situations où on va voir quelqu'un qui est en position d'autorité confesser, reconnaître un tort historique. Ça arrive rarement. Probablement trop rarement, mais ça c'est vrai, c'est quelque chose qui peut arriver. On a causé un tort, par exemple. envers les Amérindiens ici au Canada. Puis là, il y a un personnage qui va prendre la parole publiquement, puis il va reconnaître certains torts. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus que ça. J'avais beau chercher, je ne trouvais pas vraiment. Maintenant, il y a quelques personnes encore ici qui sont peut-être moins jeunes que d'autres, qui ont connu un temps au Québec où on allait au confessionnal. Fait que j'ose vous demander peut-être de dévoiler un peu, malgré vous, votre âge, qui ici est déjà allé à confesse? C'est comme ça qu'on disait ça dans le temps, aller à confesse, c'est ça? Hein? Alors vous savez c'est quoi, ce temps révolu? Regardez, attendez, gardez les mains levées, s'il vous plaît. Moi, j'invite tout le reste de l'Église, d'accord? À aller voir quelqu'un qui a la main levée, juste pour lui dire, raconte-moi ça. Non, pas passer à confesse, là. Non. Vous n'aurez pas à vous confesser, d'accord? Mais je veux dire, c'est important, là. Tu peux pas comprendre l'histoire du Québec si tu comprends pas ce phénomène. Je suis très sérieux, là. Tu peux pas comprendre l'histoire du Québec si tu ne comprends pas ce phénomène-là du confessionnal où, semaine après semaine, les plus dévots, jour après jour, allaient dans un petit cubicule. Vous avez déjà vu ça dans les films, ceux qui connaissaient pas ça. Puis là, il y avait une grille. Puis là, tu répondais à des questions. À un saint homme, tu allais comme exposer toutes tes fautes puis tout ce que tu as fait de mal. Puis lui, il est entraîné. Hein, il est exercé à ça. Charles Chiniki, un prêtre catholique converti, a écrit un livre, « Le prêtre, la femme et le confessionnal ». Si vous voulez comprendre une autre époque, vous devez lire « Le prêtre, la femme et le confessionnal » pour comprendre comment ils étaient entraînés à amener ces confessions-là puis à poser des questions, ma foi, assez troublantes pour un homme célibataire. N'est-ce pas qu'il devait demander à une femme de se confesser, par exemple, sur les plaisirs de la chair ou des choses comme ça, vous voyez? Fait que c'était quelque chose d'autre. Moi, j'ai pas connu ça, mais c'est une autre époque. Et puis peut-être que ce qui a été vécu au Québec, ceci expliquant cela, peut-être que ça fait partie aussi de notre histoire qui fait que la confession, c'est, ma foi, pas très, très présent, tu sais. Puis peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, une certaine réaction à quelque chose qui pouvait avoir une dimension malsaine. Mon expérience à moi, j'ai été baptisé catholique quand j'étais bébé, mais mes parents ont quitté l'Église catholique bien avant que j'aie ce grand privilège de passer à la confesse. Donc, mon expérience à moi, pour ce qui est de la confession, je l'ai vécu dans l'Église. J'ai vécu ça dans l'Église, puis personnellement, ça a été une expérience complètement révolutionnaire pour moi. Ça a changé tellement de choses dans ma vie. Par exemple, d'aller vers quelqu'un à qui j'ai peut-être fait du tort. Puis d'aller vers cette personne-là, puis lui dire, écoute, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir parce que je pense que c'était pas correct ce que j'ai fait là. Je pense que j'ai été méchant, ou je t'ai pas écouté, je t'ai pas respecté comme personne, puis je veux sincèrement te demander pardon. Puis donc, je suis en train de confesser un manquement, c'est ça que je suis en train de faire, dans le but de reconnaître mon tort, bien sûr, mais de restaurer une relation, c'est ça que je veux faire. Ça, pour moi, ça a été une découverte incroyable. OK, on peut construire des relations malgré les offenses en les restaurant à travers une repentance qui va s'exprimer par une confession. Je vais aller demander pardon, je veux reconstruire après ça. D'autres situations aussi que j'ai vécues tellement souvent, puis encore régulièrement, où je vais aller vers un confident, disons un gars souvent vers un gars, hein, puis une fille vers une fille, mais je vais aller lui confesser un combat dans ma vie personnelle, un péché dans ma vie personnelle qui revient trop souvent à mon goût. Puis j'ai besoin, comme c'est déjà réglé avec Dieu, c'est pas que j'ai besoin qu'il me dise « Dieu te pardonne », c'est pas ça, mais j'ai besoin de support. Et donc, je vais aller vers cette personne-là, puis je vais lui dire « Écoute, j'ai besoin de te partager un combat dans ma vie, un péché dans ma vie, j'ai besoin que tu pries avec moi, j'ai besoin que tu me redises l'Évangile aussi. » Rappelle-moi combien Dieu m'aime, puis combien Dieu me fait grâce, puis combien il veut me construire malgré mes manquements. Et donc ça, c'est un autre aspect que j'ai découvert qui, honnêtement, fait partie de ma vie personnelle sur une base, je peux dire, régulière et qui devrait être très présente dans l'Église. Soit la confession pour restaurer une relation, soit la confession pour être un soutien les uns pour les autres. Puis il y a un troisième type de confession qui, je dirais, est encore beaucoup plus importante. Beaucoup plus fondamentale, c'est la confession à Dieu. C'est de se tourner vers Dieu pour demander pardon à Dieu, parce que Dieu connaît tout et parce qu'on veut être en paix avec lui. Puis celle-là est très, très différente. Laissez-moi vous donner une illustration. Ça ressemble plus à ceci, d'accord? Ça ressemble plus à un parent qui a de très jeunes enfants. Puis là, ceux qui ont vécu ça, vous allez, ben, dans le fond, d'un côté ou l'autre, tu as été un enfant ou un parent ou les deux. Donc, un parent qui a des très jeunes enfants, puis tu sais qu'un de tes coquins, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, soit qu'il est allé fouiller dans le garde-manger, puis il s'est servi là où il ne devait pas se servir, ou tu sais, tu le vois dans son regard, tu comprends la dynamique, il laisse une faute passer sur le dos de son frère ou sa sœur, puis tu sais que c'est là. Et donc, c'est pas que tu as besoin qu'il vienne vers toi pour reconnaître son tort, puis t'apprendre qu'il a fait... Non, tu sais tout ça. Mais pour son bien... Tu veux favoriser. Fait que là, tu poses des questions. Tu sais. Ouais, t'es sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? T'y a pas, tu sais. Puis là, tu vois qu'il file pas. Puis, tu sais, t'aurais pas quelque chose que tu voudrais me partager? Puis... Voyez-vous, avec Dieu, c'est plus comme ça. Parce qu'on va pas vers Dieu comme pour lui dire, by the way, tu regardes ailleurs, mais j'ai fait ça quand tu regardais pas. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça avec Dieu. Dieu sait tout, voit tout, connaît toutes mes pensées. Je suis flambant nu devant Dieu constamment. Et donc, je m'en vais jamais vers Dieu pour dire, en passant, tu sais, j'aimerais ça juste que tu saches, au cas où quelqu'un d'autre t'en parlerait, tu sais, que j'ai fait ça. Vous comprenez? C'est pas ça l'idée. Mais donc, on s'en va vers Dieu parce que c'est notre Père. On veut que la relation soit là, qu'elle soit restaurée. On veut reconstruire ça. Et je crois que... La confession, lorsqu'on pense à la prière, est probablement le volet le plus contre-culturel pour notre époque. Et donc, comme Église, on a besoin de se pencher sur cette idée-là de confesser à Dieu. C'est de ça dont il est question ce matin, pas de confesser les uns aux autres, mais de confesser à Dieu parce qu'on parle premièrement de la prière. Et donc, ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu nous a donné la confession pour notre plus grand bonheur. Et je pense que c'est peut-être l'aspect le plus contre-culturel et le plus difficile à l'homme moderne. Et donc, c'est une belle place où commencer pour grandir dans notre vie de prière, commencer par étudier cette question-là de la confession à Dieu dans la vie de prière. Puis pourquoi est-ce que c'est contre-culturel? Bien, je pense qu'il y a une difficulté. Je crois qu'il y a une difficulté pour l'homme moderne avec l'idée de la confession, puis spécialement dans le cas du Québec, parce que pour avoir quelque chose à confesser, faut-il encore avoir fait quelque chose de mal? D'accord? Donc, j'ai quelque chose sur la conscience. Si ma conscience me dit que j'ai fait quelque chose de mal. Puis là, on vit à une époque où le concept, l'idée du péché, disons que c'est officiellement disparu. D'accord? Donc, officiellement, le péché, ça n'existe plus. Les péchés individuels, les péchés moraux. On croit encore au péché, on croit qu'il y a des gens qui font le mal. Laissez-moi donner un exemple un petit peu comme... Peut-être vous avez trouvé ça loufoque, mais je trouve que c'est une belle illustration. Le grand Satan moderne actuellement pour les Québécois s'appelle Monsieur Trump, d'accord? Et donc Monsieur Trump, c'est comme l'homme le plus vil et le plus méchant aux yeux des Québécois. Et loin de moi de faire la défense de Monsieur Trump ce matin, disons qu'il y a des choses, tu sais... Il y a l'indéfendable, parfois. Mais la vérité, c'est qu'il est loin, il est de l'autre côté des lignes, puis des fois, il est un peu loufoque. Fait que c'est le grand Satan pour les Québécois. Et donc, on le juge énormément. Il y a beaucoup de jugements. Cet homme-là fait beaucoup de choses mal. Donc, le mal existe encore. Mais sur le plan individuel et personnel, la morale étant ce qu'elle est, c'est quelque chose de personnel. C'est pas légal de parler de péché ou de parler de péché individuel. Et je crois que ça soulève une grande difficulté dans notre société. Parce que pour désirer confesser, comme je l'ai dit, il faut encore estimer que j'ai un manquement quelconque, que j'ai manqué à quelque part. Et donc, les gens souvent, je pense, veulent se dire qu'ils n'ont rien sur la conscience. On entend l'expression souvent, moi, je regrette rien. Je regrette rien du tout. Non, j'avais des choses à apprendre. Puis c'est vrai, il y a des gaffes qu'on fait dans le passé, ça sert à nous construire, puis on apprend de ces choses-là. Puis je peux pas effacer mon passé, fait que peut-être qu'une bonne manière de me réconcilier avec mon passé, c'est de dire, je regrette rien. Mais en même temps, peut-être que j'ai certains regrets. Donc, est-ce que vraiment aujourd'hui, les gens n'ont plus mauvaise conscience, puis la notion de péché n'existe pas? Et on se le fait souvent dire dès qu'on va utiliser des mots comme péché en parlant avec des amis où là, les gens se sentent jugés. Mais est-ce que c'est pas le propre d'une mauvaise conscience de se sentir jugé? Ça, c'est à eux d'en juger peut-être. Puis d'un autre côté, je me dis, c'est pas vrai qu'on n'a jamais mauvaise conscience parce que personne ne voudrait que sa vie soit complètement exposée. D'accord? Un des grands sujets, c'est est-ce que j'ai le droit à une vie privée quand je suis sur le web, admettons, puis que j'envoie un courriel à quelqu'un, est-ce que tous mes courriels vont être lus? Puis donc, c'est une question vraiment importante. C'est une question très sérieuse. Mais personne ne voudrait, en définitive, que sa vie, toutes ses pensées, toutes ses actions soient totalement exposées. Et donc, on n'a peut-être pas autant bonne conscience qu'on le pense. Donc, lorsqu'on dit que le bien et le mal n'existent pas, je pense que c'est comme pour vivre avec soi-même. C.S. Lewis avait illustré ça. Je l'ai déjà raconté une fois à l'Église. Je vais faire ça brièvement. Mais C.S. Lewis avait, il me semble que ça vient de lui, cette manière-là d'aider nos contemporains à réaliser que tout le monde a des règles, des mesures pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, même si on pense que le bien et le mal n'existent plus. Puis donc, imaginez ceci, imagine Dieu qui rencontre un de nos contemporains, qui s'assoit avec toi puis qui dit, écoute, tu crois pas trop à ça, le bien, le mal, le péché, tu trouves que c'est vieux jeu cette affaire-là, fait que je vais être super fair avec toi, je vais être super généreux avec toi. Ce qu'on va faire, c'est que tasse la Bible, oublie la Bible complètement, puis tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer chacune de tes pensées et de tes paroles lorsque tu juges quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu regardes quelqu'un et tu dis « Ah, c'est pas correct ce qu'il a fait. Ah, moi je suis pas de même. Ah, moi je ferais jamais ça. » Chaque fois que tu vas le dire ou tu vas le penser, on va juste comme les prendre. C'est ta loi à toi, c'est la loi avec laquelle tu juges les gens. Quand tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas te présenter devant moi, je sortirai pas la Bible. Je vais juste sortir ta loi pour examiner si tu as respecté ta loi. Ce serait pas facile. Et donc l'être humain a fondamentalement une loi qui est inscrite dans son cœur, qui va définir le bien et le mal, puis là, il y a des nuances, puis il y a des opinions divergentes, puis selon les époques, ces opinions-là changent, c'est vrai. Mais tout le monde a cette croyance-là quand même, qu'il y a un bien et un mal. Et ce qui est difficile souvent, c'est que la définition du bien et du mal change avec le temps. C'est vrai. Les cultures changent, les sociétés changent, puis il y avait des choses que nos arrière-grands-parents faisaient, puis 40 ans plus tard, on va dire « Ah, ça avait juste pas de bon sens ». Tout à l'heure, j'étais avec les jeunes, je donnais l'exemple du fait que les enfants dans les foyers amérindiens étaient souvent arrachés de leur foyer pour être conduits dans des orphelinats, parce qu'il fallait surtout pas que les petits sauvages élèvent leurs enfants, tu sais. Puis là, on regarde ça, puis on se dit « Mais c'est pas possible que… » Puis c'est pas juste qu'on se dit « Ah, il en manque un petit peu de réflexion ici ». Non, on juge ça comme étant vraiment quelque chose de mal. Donc les standards changent. Même dans l'Église, les standards changent. Quand moi, je suis devenu chrétien, il y a une vingtaine d'années, un chrétien, dans notre Église, à tout le moins, peut-être vous étiez dans une Église plus relaxe, mais un chrétien, ça ne joue pas aux cartes, là. Non, un chrétien ne joue pas aux cartes. Je vous dis, là, peut-être qu'il y en a, vous dites, c'est quoi, de quoi tu racontes? OK, un chrétien, ça ne buvait pas d'alcool, là. Pas un petit verre de vin. Puis on s'entend que... Il faut apprendre à boire comme il faut, du vin, puis avec modération, puis on va être rempli de l'esprit, pas rempli d'alcool, puis tout ça. Mais je veux dire, dans l'église où j'étais quand j'étais petit, qui était celle-ci, un chrétien, ça boit pas d'alcool, tu sais. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient développé depuis ce temps-là une bonne connaissance du vin, puis ce serait intéressant d'ouvrir une bonne bouteille avec vous, puis juste que vous me parliez de cette chose qu'on ne devait plus faire il y a si longtemps. Donc, c'est juste pour dire que, vous voyez, même dans l'Église, il y a des choses comme qui changent. Et peut-être que ça contribue à l'idée que finalement le bien et le mal n'existent pas. D'où l'importance de se tourner vers la parole de Dieu, qui, elle, ne change pas. Peut-être même que la compréhension que l'Église a de la parole de Dieu peut parfois changer un peu, mais fondamentalement, comme la parole de Dieu ne change pas, le bien et le mal ne changent pas. C'est fixé parce que ça nous est révélé par Dieu. Lorsqu'on arrive dans le psaume 32, tournez avec moi dans le psaume 32, les versets 3 et 4, on rencontre ici un individu qui a une conscience... très aiguisé, probablement plus aiguisé que la majorité d'entre nous. Et il s'agit de David, qui n'était pas un saint homme dans le sens catholique du terme, n'est-ce pas? Vous avez juste à lire un autre psaume de confession, le psaume 51. Vous allez comprendre, là, juste placer des petites pièces du puzzle, cet homme-là était très très loin d'être parfait. Mais voici comment il s'exprime. Dans les versets 3 et 4, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et pour être franc avec vous, lorsque je lis ça, je me dis, c'est rare que je suis aussi écrasé que ça, simplement par la conscience de mon péché, pas par les conséquences. Je pense que souvent, on regrette des péchés parce que ça nous met dans le trouble. Ça, c'est une autre histoire. C'est, dans un sens, c'est correct. Dieu peut nous conduire à la repentance en nous, en faisant poindre devant nous, en nous montrant, c'est parce que si tu continues à faire le tata comme ça, à un moment donné, ça va vraiment mal aller, tu sais. Mais ultimement, c'est pas ça qui devrait être le fondement. C'est plutôt cette loi de Dieu qui m'est donnée, qui me permet d'aller examiner mon cœur. Et David était un homme qui était amoureux de la parole de Dieu. Littéralement, on a des psaumes où il expose, il exprime son amour pour la parole de Dieu. Et donc, ce qu'on rencontre ici, c'est une conscience qui n'est pas livrée à elle-même, puis à, aux saisons, aux époques, à la culture où elle vit, puis « OK, c'était pas bien il y a 100 ans, mais maintenant ça c'est bien », ou qui est livrée à elle seule, puis « Bof, moi je pense que oui, moi je pense que non ». Non, on a une conscience qui est exposée à la parole de Dieu. D'où l'importance pour nous comme chrétiens, d'une part de connaître la parole de Dieu pour connaître les standards de Dieu, mais de chercher premièrement à se tourner vers Dieu lorsqu'on pense à notre conscience et lorsqu'on pense à la confession. David se tournait vers Dieu et ce qu'on voit dans le passage très brièvement, c'est qu'il va confesser des péchés parce que les péchés profondément c'est un poison. C'est un poison qui détruit ma communion avec Dieu parce que j'ai offensé Dieu, mais c'est un poison aussi qui coule à quelque part dans mes veines lorsque je ne vais pas justement m'en libérer en les confessant à Dieu puis en recevant son pardon. Juste des petites nuances qui sont peut-être pas toujours évidentes en français. Au verset 1, justement, le psaume 32, voici ce qui est écrit. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Puis en hébreu, j'ai deux mots différents. En français aussi, ça tombe bien, hein? Mais c'est ça, on a essayé de traduire ça. Et donc, le mot hébreu qui est là pour transgression reflète l'idée de cette réaction qu'on a souvent devant la loi de Dieu, qui est comme, la loi de Dieu devient comme un désir de transgression, tu sais? Parce que je t'ai dit qu'il fallait pas, là, boy, c'est comme, ça me tente. Et c'est cette idée-là qui est là. L'idée de dire « Non, non, personne ne va me dire ce que je peux pas faire. J'ai le goût de faire ça, je vais le faire. » Et donc, c'est un désir de transgresser qui est là. Lorsque je regarde l'autre mot qui est en hébreu pour « péché », donc dans la suite du verset, l'idée qui est là, c'est plutôt de se détourner du sentier de Dieu, peut-être par ignorance, peut-être consciemment, peut-être pas consciemment, mais j'ai cette voix-là qui est la voix saine, qui est la voix de l'homme sage, de la femme sage, qui va être heureuse, qui marche avec Dieu, puis je me suis écarté de la voix de Dieu, pas nécessairement par un désir de transgression, mais je me suis peut-être égaré loin de la voix de Dieu. Et donc, ce que David nous dit, c'est que le péché a un effet à l'intérieur de nous. Non seulement il vient briser notre communion avec Dieu, mais il a un effet à l'intérieur de nous. Il produit, c'est un poison qui vient couler dans nos veines, puis qui vient transformer notre rapport à Dieu, premièrement, mais notre rapport aux autres. Et on pourrait donner des exemples avec le mensonge qui vient dénaturer même la personne qui est devant moi. La personne est déshumanisée, ça devient un objet. Et donc c'est un poison qui est là. Puis David dit, « Tant que j'ai gardé ce poison-là en moi, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Il y avait quelque chose qui coulait dans mes veines, qui était destructeur, qui me privait d'une joie profonde. » Alors, des questions juste pour chercher comment on peut mettre ça en application cette semaine. Est-ce que la parole de Dieu est présente dans ta vie et dans ton cœur pour que tu la laisses te montrer quand tu es rebelle? Parce que on a beau regarder la culture, la société, puis dire les gens n'ont pas les standards bibliques, c'est pas suffisant. Dans nos cœurs aussi, il y a des choses qui s'installent, qu'on tolère, qui sont là, puis il n'y a plus de problème. Parce qu'on perd ce discernement-là. Alors, est-ce que la parole de Dieu est quelque chose que tu aimes comme David aimait la parole de Dieu? Pour que ton cœur soit constamment révélé, que tes jugements, tes opinions soient constamment révélés. Est-ce que ta conscience ressemble à celle de David qui aimait tellement la parole de Dieu? Alors, voyez-vous, si je veux grandir dans ma prière puis vraiment intégrer davantage la confession, ça me demande, et c'est ça qu'on vient de voir ensemble, ça me demande de comprendre que la dynamique de la conscience me demande d'être exposé à la parole de Dieu. Tous les êtres humains peuvent avoir mauvaise conscience. On a tous la loi de Dieu qui est inscrite dans notre cœur. On juge les gens, mais c'est très tentant de comme, tu sais, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Puis lorsque je vais vers la parole de Dieu puis que je médite la parole de Dieu, je suis pas sujet à mon jugement du jour. Puis là, je me compare puis je dis, ben c'est peut-être pas bien, mais je regarde lui puis il est bien pire que moi. Puis non, je m'en vais vers la parole de Dieu puis je laisse la parole de Dieu exposer mon cœur, révéler mon cœur. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir ensuite aller trouver le bonheur de la confession. Mais si je n'ai pas ce standard-là auquel je suis exposé, ce bonheur-là qui est annoncé heureux, je ne pourrais pas aller le chercher. Et je ne crois pas qu'on est heureux lorsqu'on reste avec comme une conscience à peu près en paix. Je n'ai pas confessé ça parce que je ne suis peut-être pas coupable, je ne sais pas. Nos enfants, lorsqu'on a des jeunes enfants, on le voit avec eux. Lorsque tout à l'heure, je donnais l'exemple avec Dieu qui nous approche comme un parent va approcher son enfant, puis tu sais qu'il a fait quelque chose de mal, puis tu vois qu'il l'a sur la conscience, puis tu veux l'aider à grandir, tu veux l'aider à connaître Dieu, tout ça, tu veux le conduire dans tout ça, mais tu sais que le moment où il va cracher le morceau, c'est comme si tu venais d'y enlever une écharpe de l'orteil, tu sais. Parce que ta conscience est soulagée. Quand ta conscience est en paix. Et si je n'ai pas la parole de Dieu dans ma vie, pour être le juste standard qui va m'aider à déterminer le bien et le mal, je n'aurai pas ce privilège-là parce que je vais jouer avec ma conscience. Selon la culture, selon l'époque, selon les temps, je vais déterminer le bien et le mal comme je le juge bon. Maintenant, David nous dit qu'il y a un véritable bonheur dans la confession. Il y a un véritable bonheur dans la confession et dans le pardon. Au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. » David nous dit qu'il y a une joie, il y a un bonheur profond. On demande pardon à Dieu pour la gloire de Dieu. D'accord? Puis je pense qu'on veut comme toujours, dans une église comme ici, on veut toujours comme avoir une bonne théologie solide, puis on dit, pourquoi on va vers Dieu? Premièrement, c'est parce que Dieu a été offensé, on veut honorer Dieu, c'est Dieu qui est glorieux, Dieu est saint. C'est vrai. Mais on fait une erreur lorsqu'on élève la notion de la gloire de Dieu et qu'on la détache de la notion de bonheur pour nous. Dieu, dans la poursuite de sa gloire, poursuit notre bonheur. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez Dieu. Parce que la tentation est de dire, bon ben Dieu veut que je sois heureux sans vraiment se préoccuper de la gloire de Dieu. Ou l'autre tentation, c'est de l'autre côté, de dire, non, mais Dieu est grand, puis il faut qu'il soit honoré, il faut qu'il soit élevé. Puis il n'y a pas de détachement à faire entre les deux. Dieu cherche sa gloire, parce que lui seul est glorieux, on le chante dans nos louanges, et Dieu cherche simultanément mon bonheur, parce que mon bonheur se trouve là à être en paix avec ce Dieu glorieux et saint. Et donc, David me dit qu'il y a un véritable bonheur qui est là. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Je suis dans le Nouveau Testament, là. Puis Jean nous dit, « Si tu ne vois pas le péché dans ta vie, c'est que tu es en train de te raconter une chanson, tu es en train de te conter des histoires, puis la vérité n'est plus là dans ton cœur. Et comment est-ce que je vais ramener la vérité? C'est en ramenant la parole de Dieu. » Alors, mieux vaut reconnaître et confesser nos péchés à Dieu, même qu'aux hommes. Parce que Dieu est le standard ultime. Et si dans ma conscience, je suis en paix avec Dieu, même si les hommes me jugent, je m'en remets à Dieu. L'apôtre Paul va dire ça, hein? Il va dire, moi-même, je ne me juge pas moi-même. Parce que moi-même, j'ai pas un jugement parfait. Mais je laisse Dieu, avec sa parole, me juger. Puis je m'en remets à sa grâce, parce que je sais que ses standards à lui sont parfaits. Et donc, David prend une décision au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Il y a un véritable bonheur à avoir cette disposition de cœur, où je prends une décision d'aller vers Dieu et dire, « Seigneur, je vais t'exposer mes fautes. Je vais t'exposer mon péché. » Et ce n'est pas parce que je suis en Jésus-Christ, que j'ai cru en lui, je sais que je suis sauvé pour l'éternité, que je ne veux pas quotidiennement aller dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi là où j'ai erré, je me suis égaré. » Puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, « Yannick, c'était pas correct quand tu as fait ça. » Puis à un moment donné, je réfléchis puis je me dis, « Non, je suis pas d'accord, mais peut-être que j'ai besoin d'aller mettre ça dans la prière. » Puis dire, « Seigneur, je vais aller dans ta parole. » Puis je veux faire ce choix-là d'aller vers toi pour confesser. De prendre le temps d'exposer à Dieu tranquillement mes fautes, mes péchés, de m'étendre là-dessus. Parce qu'il y a une grâce véritable dans le pardon. Il y a une grâce profonde dans le pardon. Au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et il y a deux images, encore une fois, remise et pardonnée dans l'hébreu. J'ai deux images qui sont ici. Cette faute qui a été remise, c'est qu'elle a été enlevée complètement. Elle a été enlevée, elle disparaît complètement. Puis l'autre, c'est comme un synonyme, mais il y a une nuance. Le deuxième, c'est que le péché a été couvert. Il est maintenant caché entièrement. Et donc, mon péché est couvert. Et il y a une grâce véritable à prendre le temps de confesser à Dieu et prendre le temps de réaliser que mon péché est vraiment enlevé. Mon péché est vraiment couvert. J'ai déjà donné cette citation de John Owen où, dans Mortification of Sin, il dit... Quand tu confesses un péché à Dieu, va pas plus vite que l'Esprit Saint pour te déclarer pardonné. Et il prend le temps de développer son idée. Il dit trop souvent, lorsqu'on confesse un péché à Dieu, c'est une prière take-out. Tu sais, on va vite, j'ai manqué, je te demande pardon, Seigneur. Puis là, on espère sentir en nous comme tout est legit. C'est, OK, je suis en paix. Mais tu t'en vas, puis dans le fond, c'est comme. Tu te sens encore coupable, pourtant tu as demandé pardon. Là, tu dis, OK, faut que je retourne dans mes livres de théorie, demande pardon, Jésus a payé, je suis pardonné, tout devrait être réglé. Mais on apprend dans le Nouveau Testament que Dieu, qui est esprit, nous a donné son esprit. Son esprit habite en moi. Et il y a vraiment de la place, il y a un temps pour aller dans la prière et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me rappelles ta grâce. Je te le confesse, mon péché, je te demande pardon. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me soulager de cette culpabilité-là en me rappelant ta grâce. Et donc, je vais dans la parole, puis je lis les Écritures, puis je vais dans la prière, puis je vais prendre le temps qu'il faut pour permettre à l'Esprit-Saint de me rappeler la grâce de Dieu, de me rappeler l'Évangile. David écrit ça à une époque où l'Évangile, il pouvait même pas la comprendre comme nous, on la comprend aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez ça? David ne pouvait pas repasser dans son cœur le sacrifice de Christ. C'est Tim Keller qui m'a mis sur cette piste-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Lorsque au verset 1, j' ai dit, il y a comme deux idées. Hein? Ton péché est enlevé, puis ton péché est couvert. Puis j'ai vraiment aimé cette illustration-là. Lorsque Christ est à la croix, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Si vous connaissez un petit peu c'est quoi la crucifixion, vous savez que Christ a été découvert. Il a été dépouillé, dénudé littéralement de toute dignité possible. Lui qui déjà s'était humilié en quittant le ciel où il était avec son Père, dans la gloire célébrée par les anges, il avait déjà quitté cette gloire-là pour devenir un homme, mais sur la croix, il a été traité comme moins qu'un homme. Il a été complètement mis à nu physiquement, humilié, méprisé, afin que par son sacrifice, mes péchés à moi puissent être entièrement couverts. Lui a été complètement dénudé pour que moi, je puisse être couvert au complet. Et donc, l'idée, c'est que quand je vais dans la prière, puis je vais confesser un péché à Dieu, si j'y vais trop vite, je crois que je risque de contrecarrer l'œuvre que l'Esprit-Saint veut faire dans mon cœur en me rappelant l'Évangile de Jésus-Christ, en me rappelant la grâce. Parce que David était un homme de prière et c'est clair que lorsqu'il a confessé son péché, il a vécu la joie d'être pardonné entièrement. C'est clair dans le passage. Cette joie-là, cette libération-là a été retrouvée. Et donc, si t'es un chrétien qui confesse peu, puis qui après ça essaie de s'accrocher à la théorie de l'Évangile en se disant « je devrais avoir bonne conscience, Christ a payé pour tous mes péchés », c'est comme si tu te prives d'une discipline spirituelle super précieuse dans la prière, où je prends le temps d'être explicite, exposé, énoncé, en long, en large, ma faute avec ce qu'elle comporte, pour permettre à l'Esprit-Saint de me rappeler l'Évangile de la grâce. Ce que Christ a fait lorsqu'il a été découvert pour que mon péché puisse être couvert. Et ça, c'est la grâce de la confession. Et donc, ce que David nous dit au verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Il dit, les gens, les hommes et les femmes qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, devraient prier comme ça. Devraient prendre le temps d'aller en eux-mêmes et dire, je me suis dit à moi-même, je vais reconnaître ma faute, Seigneur. Je vais aller vers le Seigneur puis je vais confesser ma faute. Parce que je veux entendre sa grâce. Je veux entendre son pardon. Je vais prendre le temps d'aller dire ces choses-là. Puis pas me cacher derrière une espèce de cheap grace, comme si c'était un guichet automatique de la grâce. Non, je veux prendre le temps d'aller adorer Dieu et la porte d'entrée pour me rendre là, ça va être mon péché. Est-ce que c'est possible, ça? Je veux prendre le temps d'aller adorer Dieu, puis ma porte d'entrée pour aller dans l'adoration, comme je le vois ici dans ce psaume-là, ça va être mon péché. Parce que j'ai une réalisation de mon péché, j'entre en moi-même, puis je dis, Seigneur, je vais me tourner vers toi, je vais m'arrêter, puis je vais aller te confesser ma faute, Seigneur. Je vais me confier en toi. Plutôt que de rester avec ce poison-là dans mes veines, cette semi-culpabilité-là qui fait que je ne suis pas capable de voir les choses comme elles sont, dire les choses comme elles sont. Puis David donne une comparaison, il dit « Soyez pas comme un cheval qui réfléchit pas, puis il faut y mettre des œillères pour le contrôler, puis on fait juste comme une espèce de loi qui va le guider constamment. Non, sois plutôt comme un homme intelligent qui entre en lui-même et qui vient se confier lui-même en Dieu. » Qui vient vers Dieu pour recevoir cette grâce de la part de Dieu. Regardez le verset 10. « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et si dans ton expérience de la vie chrétienne, tu dis « c'est beau la grâce, mais c'est comme si au quotidien ça ne change pas grand-chose dans ma vie. J'ai pas cette joie-là de mon salut. » Peut-être qu'un des éléments qui manque, c'est cette discipline spirituelle de la confession, où tu prends le temps de t'arrêter, puis vraiment d'aller confesser ton péché. Puis je vais vous donner des petits exercices pratiques, si vous voulez comme grandir dans votre confession cette semaine, d'accord? Par exemple, vous pourriez prendre le psaume 32 avec une feuille puis un crayon, puis prendre le temps juste de voir la démarche que David fait. Essayez de comprendre son processus, puis voir comment ça vous parle à vous, puis dire... Je vais le faire maintenant, je vais aller dans la prière. Ensuite, je vais prier le psaume 32 en pensant à tel péché. Ici, je trouve que c'est une grâce que Dieu nous fait de ne pas connaître exactement la faute de David. Psaume 51, on sait c'est quoi sa faute, pas à peu près. Mais ici, on ne sait pas, puis c'est bien comme ça, parce que je peux me l'approprier peut-être encore plus d'une certaine manière, d'accord? Donc ça, c'est une chose que tu peux faire. Une autre chose que tu pourrais faire, c'est y a un péché qui revient trop souvent dans ta vie. Prends encore une fois une feuille, puis un crayon, puis... Prends le temps d'écrire, c'est quoi ce péché-là? En quoi est-ce qu'il est une offense à Dieu? Quelles sont ses conséquences dans ta vie à toi, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les autres? Quelles sont les implications? Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? Puis tu sais, ça peut avoir l'air un peu morbide, comme, aïe, aïe, Nick, c'est comme... Mais une relation profonde demande des conversations profondes où on n'a pas peur de dire les choses. Puis si votre relation avec Dieu, c'est toujours des prières, take out, puis vite, 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 il y a quelque chose qui ne sera pas là. Si David était un adorateur tellement beau de Dieu, avec une vie de prière tellement profonde, c'est que c'était quelqu'un qui avait pas peur de s'étendre un peu sur ses fautes, puis après ça, vraiment recevoir toute la grâce de Dieu sur cette faute-là. C'est intéressant, hein? Puis peut-être que vous dites, oui, mais je ne sais pas par où commencer, Yannick, là-dedans. J'ai jamais fait ça, tu sais. Alors peut-être qu'il y a un frère, une soeur, quelqu'un dans l'Église que vous respectez qui est près de vous. Puis vous pouvez tout simplement lui dire, peux-tu faire l'exercice avec moi? C'est pas que je tiens à me confesser à un homme. Je pense que j'ai déjà dit à Dieu cette faute-là, mais pour moi, la confession, c'est beaucoup plus simple que ça. Puis je ne sais pas comment je pourrais aller chercher plus que ça. Et juste prendre le temps avec quelqu'un dans l'Église de dire, tu veux-tu, on va passer à travers ça? Je vais te partager cette faute-là. Pas peut-être parce que j'ai besoin de la confesser à un homme, mais parce que j'ai besoin que tu m'aides à aller plus loin dans ma confession, à grandir à cet égard-là. Et regardez bien le verset 11. C'est un verset superbe. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant pendant qu'on est en train de conclure ça. Souvent, des gens viennent me voir et ils me disent la notion de juste, là, un chrétien qui est un juste, j'accepte pas ça. Parce que dans le Nouveau Testament, la théologie de Paul, l'Épître aux Romains, il y a juste la justice de Christ qui fait qu'on est justifié, c'est vrai? Amen? Il y a juste la justice de Christ qui fait qu'on est pardonné, qu'on est déclaré juste. Mais quand je m'en vais particulièrement dans l'Ancien Testament, je le trouve aussi dans le Nouveau Testament, il y a cette idée du juste, je m'excuse, du juste, c'est celui qui cherche à marcher avec Dieu. C'est vraiment intéressant de l'avoir dans le contexte de ce psaume-là. Regardez bien le verset 11. Juste, après que lui ait confessé, après qu'il nous ait partagé le processus qu'il a vécu avec Dieu, voici comment il termine. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. À la lumière du psaume 32, être droit de cœur, c'est dire souvent à Dieu que je n'ai pas été droit de cœur. Fais-tu du sens ce que je dis? À la lumière du psaume 32, être un juste, c'est reconnaître souvent que j'ai été injuste. Mais notre Dieu prend plaisir à nous donner le bonheur, la joie de savourer sa grâce. Et donc le juste s'examine régulièrement dans la prière en confessant ses péchés pour recevoir le bonheur dans son cœur, la joie profonde de savoir que Christ est mort, a été dépouillé, dénudé, afin que mes péchés à moi soient couverts. Et donc, ma confession peut me conduire directement vers l'adoration. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer ce matin. Et je veux commencer par ta personne, Fils de Dieu. Je veux reconnaître, Seigneur, le sacrifice immense que tu as fait en venant marcher parmi les hommes, en mourant sur la croix. Dépouillé, dénudé complètement, tu t'étais déjà, Seigneur, dénudé de ta gloire en venant parmi les hommes, mais tu as accepté l'humiliation ultime d'être traité comme un pécheur, d'être fait péché, afin que mes péchés à moi puissent être couverts, Seigneur. Seigneur, j'ose te demander de nous faire grandir à travers cette série sur la prière et de commencer en nous faisant grandir sur le plan de la confession, Seigneur. Seigneur, je veux reconnaître que trop souvent, nous passons trop vite sur nos fautes et nous nous privons de cette grâce de savourer l'Évangile et de cette joie qu'apporte l'Évangile à celui à qui beaucoup a été pardonné, Seigneur. Apprends-nous à confesser beaucoup, Seigneur, pour recevoir ta grâce entièrement dans nos cœurs et cette joie profonde que David expérimente ici, que ça devienne notre joie dans la prière. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.